Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de textes tirés des médias suivants: Nature sauvage et Urbania. Au programme, la buse patue, l'hyperborienne. Et le biochar, l'or noir du jardin. Bonne écoute.
La buse battue, l'hyperboréenne, un texte de François Morneau, paru en automne 2022, numéro 57, dans le magazine Nature sauvage. Autrefois connue en France sous le nom d'archibuse, la buse battue se reproduit dans les régions arctiques et subarctiques et hiverne au sud, au-delà de ses aires. Elle se distingue des autres espèces de buses, notamment par son régime alimentaire, son nomadisme et quelques aspects de son comportement. Découvrons cette habitante des terres hyperboréennes. Dans le sud du Québec, il arrive qu'en décembre, des dizaines de buses battues soient observées en déplacement, semble-t-il, vers des latitudes plus méridionales. Cet exode est toujours précédé d'une importante chute de neige. Comment cette dernière affecte-t-elle l'oiseau? Composée avec la neige. Les petits rongeurs constituent une forte importante partie du régime alimentaire de la buse battue, parfois plus de 95%. Dans ses aires de reproduction, tant en Amérique du Nord qu'en Scandinavie, en Finlande ou en Russie, elle se nourrit principalement de lemmings et de campagnols. Même sur les aires d'hivernage, les rongeurs tels le campagnol des champs dominent ordinairement le menu. Cet oiseau de proie est au demeurant souvent désigné comme un spécialiste des petits rongeurs, alors que les autres espèces de buses sont euriphages, un terme qui signifie qu'elles sont davantage des généralistes du point de vue alimentaire. Une chute de neige substantielle, en restreignant l'accès aux rongeurs, incite la buse battue à chercher ailleurs sa nourriture. Or, le portrait n'est pas aussi simple. Sur l'île russe, Kolguyev, une contrée dépourvue de rongeurs, la buse battue s'y nourrit exclusivement d'oiseaux. Des oies, en particulier des jeunes, des lagopèdes et quelques passereaux. Cependant, sa densité de population est plus faible et plus stable sur cette île que dans les régions où les rongeurs abondent. En Laponie finlandaise, à la suite d'un effondrement estival des populations de petits rongeurs, la buse les a remplacés dans son alimentation par des oiseaux, dont la moitié sont des limicoles. Elle capture quelquefois des poissons en plongeant à la façon d'un balbuzard pêcheur. Et au besoin, elle devient un charognard. On l'a vu se repaître de carcasses de phoques ou de caribous sur les aires de nidification. En Idaho, en hiver, à défaut de pouvoir attraper des campagnols après une chute de neige, la buse battue s'est rabattue sur des lièvres à queue noire, victimes de collisions avec des automobiles. Estimez rapidement les vivres. Tant la densité de population de la buse battue que le nombre de naissances sont associés à l'abondance des petits rongeurs qui, dans les régions septentrionales, varient habituellement selon un cycle de 4 ans. Pendant une année de creux de ses proies et en deçà d'un certain seuil, l'oiseau de proie peut temporairement s'absenter d'une région entière. Manifestement, L'espèce est en mesure d'évaluer l'abondance des rongeurs à son arrivée sur ses lieux de reproduction. Comment fait-elle? Une étude a établi que la buse est apte à détecter les rayons ultraviolets émis par les effluves des excréments et de l'urine des rongeurs et, par ricochet, d'en jauger la quantité. Le mécanisme exact n'est pas parfaitement compris, mais on sait qu'il est rapide. Car, lorsqu'au printemps les effectifs de rongeurs sont plus bas, la plupart des buses ne s'attardent que quelques jours et se dispersent ensuite. Vous écoutez La buse battue, l'hyperboréenne, un texte de François Morneau, paru en automne 2022, numéro 57, dans le magazine Nature sauvage. Semés à tout vent. Où vont ces individus? Ils volent vraisemblablement à la recherche d'un eldorado des rongeurs qui leur permettra de se reproduire. Ainsi, des jeunes bagués au nid ont été retrouvés à l'âge adulte à en moyenne 1955 km de leur lieu de naissance. Sur l'île de Terre-Neuve, la reproduction de l'espèce au cours de la période 1975-1995 n'a été observée qu'en 1988 et 1993 et, surprise, elle était absente en 1988 du Labrador voisin qui fait partie de son aire de nidification habituelle. Ces comportements correspondent assez bien au concept de nomadisme, ce qui contraste avec le comportement des autres espèces de buses des régions tempérées qui, elles, ont tendance à rester ou à revenir au lieu de naissance afin de se reproduire. En période de nidification, dans les régions arctiques, l'oiseau chasse dans une variété d'habitats où les lemmings et les campagnols foisonnent, particulièrement près des lacs et des étangs. Dans la taïga, il recherche ses proies dans des tourbières, des brûlis et même certaines coupes à blanc, comme à Terre-Neuve. Le nid est d'ordinaire construit sur le rebord d'une falaise, de temps à autre dans un arbre, par exception au sol ou sur une infrastructure. Au Québec, au sud de la baie d'Hudson, on a découvert 49 nids sur des falaises. Le plus spectaculaire était celui d'un couple qui nidifiait dans les années 1990 et dont les successeurs le font peut-être encore de nos jours, sur les parois de l'évacuateur de crue du réservoir Robert Bourassa, également appelé l'escalier des géants. Choisir le moindre mal. Des données récentes suggèrent, en Russie, une association occasionnelle sur les aires de reproduction entre la buse battue et le faucon pèlerin. Cette dernière espèce, ornithophage, est beaucoup plus agressive que la buse battue. Elle chasse, jusqu'à une bonne distance de son nid, tous les prédateurs, y compris les renards. Selon une hypothèse, en nichant près d'un nid de faucon en période de disette alimentaire, la buse bénéficierait d'une protection accrue contre les prédateurs et d'une plus grande quantité de proies. Il a en effet été démontré que les petits rongeurs, dans un creux de cycle, étaient beaucoup plus nombreux à moins de 1 km d'un nid de faucon qu'au-delà de cette distance. Les buses ayant choisi un tel emplacement ont un succès de reproduction beaucoup plus élevé que celles qui sont éloignées de ces nids. À l'opposé, dans la toundra sibérienne, la buse battue se tient loin du harfan des neiges, qui semble être à la fois un compétiteur pour la nourriture et un prédateur de l'espèce. En fait, dans cette vaste région, les deux espèces n'habitent pas souvent les mêmes secteurs. Le cas échéant, la buse nidifie loin des nids du hibou, mais tout de même, sa densité de population locale est alors beaucoup plus faible que lorsque ce dernier est absent. Le renard arctique est le principal prédateur des nichés de l'espèce. En Sibérie orientale, l'ours brun et le loup s'emparent exceptionnellement des jeunes au nid. En Norvège, les restes de 3 buses battues ont été retrouvés dans un nid de hibou grand-duc. Au Québec, ceux de 2 individus ont été récoltés dans celui d'un aigle royal à la baie d'Hudson. Fuir la neige. En Amérique du Nord, la majeure partie des populations de buses battues hivernent aux États-Unis, dans les grandes plaines et le désert du Grand Bassin. En hiver, l'oiseau chasse dans des biotopes à faciès de toundra, champs de chaume, friches herbacées, marais côtiers, pâturages et semi-déserts. Il pratique la chasse à l'affût et se perche typiquement dans les arbres isolés et sur des poteaux électriques. La température et surtout l'accumulation nivale déterminent la répartition, les déplacements et une partie des comportements de l'espèce. Même une faible épaisseur de neige compromet les chances de capture de micro-mammifères, car la plupart se meuvent dès lors sous le couvert nival. Une forte chute de neige doublée d'une période de grand froid dans l'ère d'hivernage traditionnel peut provoquer un exode vers le sud. Cela s'est produit en Europe à l'hiver 2010-2011. Des buses ont gagné la Suisse en janvier, là où l'espèce est rarement rencontrée. Le phénomène a aussi été remarqué au Japon au mois de janvier 2008, alors que des centaines d'oiseaux ont été aperçus. Enfin, la télémétrie satellitaire révèle que la migration printanière est synchronisée de très près sur la fonte des neiges. Survivre à l'Anthropocène. La buse battue affronte maintes menaces liées au changement climatique et aux activités anthropiques. Une étude a permis de constater qu'en Sibérie, des pluies froides prolongées tuent des jeunes par hypothermie. Au Canada, sur l'île Bilo, plus du quart des nids étudiés ont été détruits entre 2007 et 2015 par l'érosion de la roche sédimentaire sous-jacente, 87%, ou par des conditions météorologiques extrêmes, 13%. En Alaska, l'érosion explique le quart de la mortalité des jeunes au nid. Sur les aires de nidification, les automnes plus chauds et pluvieux, ainsi que les hivers plus doux, perturbent déjà la reproduction et la survie hivernale des lemmings et des campagnols. Au Groenland, les populations de lemmings stagnent dans un creux depuis plusieurs années. Dans une région de Norvège, une légère diminution des naissances de jeunes buses a été notée sur une période de 21 ans à la suite d'une baisse du nombre de rongeurs. Dans l'ouest des États-Unis, l'aire d'hivernage s'est déplacée de 300 km vers le nord au cours de la période 1975-2011 en raison, semble-t-il, d'une réduction de l'importance de la couverture nivale en décembre. Ce n'est pas le cas au Québec. Le développement économique de l'Arctique, ainsi que les transformations des pratiques agricoles et la compétition avec d'autres espèces de buses sur les aires d'hivernage, représentent d'autres menaces. Heureusement, l'hyperboréenne paraît se tirer d'affaire, pour l'instant du moins, puisque ses populations sont plutôt stables depuis quelques décennies. Sur une note plus positive, il se pourrait même que l'espèce accroisse son aire de nidification vers le nord sous l'effet du réchauffement climatique. En bref, buse battue, Buteo lagopus, rough-legged hawk. Coloration, individu au plumage clair, grande tache foncée près de l'articulation antérieure de l'aile, base de la queue blanche, individu au plumage sombre, corps dans les teintes de noir à brun, moitié distale de la surface inférieure des ailes, blanche. Longueur, de 50 à 59 cm. Envergure, de 120 à 153 cm. Masse, de 828 à 1130 g, la femelle étant plus grosse que le mâle. Nombre 2, de 2 à 7, mais très fréquemment de 3 à 5. Forme subelliptique à elliptique, de couleur blanc-verdâtre ou bleuâtre, taches et stries brunes en nombre variable. Durée de l'incubation, minimum 31 jours. Soins aux jeunes, essentiellement par la femelle, le mâle apportant la plupart des proies. Séjour des jeunes au nid, de 31 à 45 jours. Longévité, record de 19 ans à l'état sauvage et de 38 ans en captivité. C'était La buse battue, l'hyperboréenne, un texte de François Morneau, paru en automne 2022, numéro 57, dans le magazine Nature Sauvage.
Le biochar, l'or noir du jardin. Un texte de Marjolaine David, paru le 7 mars 2023 dans Urbania. On entend de plus en plus parler de l'usage du biochar, mot-valise réunissant biomasse et charbon, en agriculture. Pourtant, il n'a rien de nouveau. Si on se retourne vers l'histoire, on se rend compte qu'il s'agit d'une méthode traditionnelle millénaire. En effet, durant la période précolombienne, des sociétés humaines utilisaient le charbon de bois, un type de biochar, pour améliorer la structure et la productivité des sols très pauvres de la forêt amazonienne. Ces sols, nommés terra preta, forment aujourd'hui d'étonnants îlots de fertilité à travers l'Amazonie. Depuis le début du siècle, de nombreuses recherches ont été réalisées sur le sujet, renouvelant ainsi l'intérêt agricole du biochar. Le biochar, c'est quoi? Il s'agit de biomasse, souvent issue de résidus de l'industrie forestière et carbonisée, grâce au procédé de la pyrolyse. Une chaleur entre 300 et 800 degrés Celsius décompose la matière organique, mais en l'absence d'oxygène, cette dernière ne brûle pas et conserve ainsi sa structure. Le résultat est un produit avec une haute teneur en carbone et rempli de microporosité. Les avantages du biochar. Au jardin de l'Écoumène, le semencier Jean-François Lévesque, en collaboration avec le Centre collégial de recherche Bioptère, utilise le biochar dans ses parcelles depuis plusieurs années et note de nombreux effets bénéfiques sur les plantes qu'il cultive. Il le qualifie même de « chaînon manquant des sols vivants ». Ma quête, comme agriculteur biologique, est de soutenir et maintenir la vie dans les sols. C'est exactement ce que le biochar lui permet de faire. Une image souvent utilisée pour expliquer le rôle de cet amendement est celle de l'éponge. Il attire les bactéries et les champignons bénéfiques dans ses cavités. Non seulement ces micro-organismes participent, grâce à des symbioses, au développement des plantes cultivées, mais leur présence améliore aussi la santé biologique du sol, et ce, malgré la perturbation créée par le travail manuel ou mécanique. Les qualités du biochar ne s'arrêtent pas là. Dans la littérature scientifique, on découvre qu'il a la capacité de retenir les nutriments comme un aimant, afin de les rendre disponibles auprès des plantes potagères tout au long de la saison. Il réduit ainsi le lessivage du sol. Plutôt que d'être transporté dans les couches plus profondes du sol lors des précipitations, les nutriments restent collés aux particules de biochar et accessibles aux plantes. De plus, il aide aussi à structurer le sol et éviter sa compaction. Dans un mélange de terreau d'empotage, il peut remplacer la perlite ainsi qu'une partie de la tourbe puisqu'il permet à la fois un meilleur drainage et une meilleure rétention d'eau. Finalement, il est particulièrement stable et durable. Contrairement au compost ou au fumier, il n'est donc pas nécessaire d'en appliquer à chaque année, car il reste dans le sol pendant des centaines d'années. Application en mélange avec du compost. Bien que le biochar semble miraculeux, il existe quelques bémols. D'abord, dans les premières semaines suivant son application, il peut entrer en compétition avec les plantes pour les nutriments dans le sol, surtout s'il est appliqué durant leur période de croissance. Puisqu'il agit comme une éponge, il absorbe les nutriments dans le sol, les rendant ainsi momentanément indisponibles pour les cultures potagères et les relâche graduellement par la suite. La solution est toute simple. Il suffit de mélanger le biochar avec du compost ou du fumier et d'attendre une semaine avant de l'appliquer au jardin ou alors de le mélanger à du terreau pour la transplantation. La biomasse est ainsi chargée de nutriments et prête à les relâcher. Application directe. Cette technique peut sembler compliquée pour de grandes surfaces. C'est pourquoi il est aussi possible de le mélanger directement dans la terre. On tentera alors de le faire à l'automne ou une semaine avant la transplantation, tout simplement. Finalement, l'application du biochar doit se faire graduellement. Au jardin de l'écoumène, on recommande un ratio optimal d'un kilogramme de biochar par mètre carré avec des applications étalées sur plusieurs années. De cette manière, le ratio de biochar dans le sol augmente graduellement sans perturber le sol ni faire un gros trou dans son budget. Culture en pot. Selon le propriétaire des jardins de l'écoumène, l'effet du biochar est encore plus perceptible en culture en contenant qu'en culture en sol. En effet, son application permet une meilleure rétention des nutriments et de l'eau dans les pots, un défi de taille pour les jardiniers et jardinières urbains et urbaines. L'utilisation de biochar dans le mélange de terreau permet une meilleure vigueur et une plus grande productivité des plants, et ce, malgré l'espace restreint alloué pour le développement de leurs racines. Choisir un biochar. Il faut savoir qu'il existe des centaines de biochars. Le type de biomasse, les technologies utilisées et la grosseur des particules sont trois facteurs qui influencent leur qualité et leur prix. Comment choisir le produit idéal pour son jardin? En règle générale, le biochar de bois est une valeur sûre. Quant à la granulométrie, tout dépendra de la méthode d'application. Selon Jean-François Lévesque, une fine granulométrie permettra davantage de porosité, mais s'épandra néanmoins plus difficilement. Il suggère d'utiliser du biochar fin pour une application en pot ou en mélange avec du compost et de choisir une granulométrie plus grossière pour des applications sur de grandes surfaces. Il utilise cet amendement tant pour ses semis que dans ses serres et ses champs et le considère comme un investissement en capital carbone pour la santé des sols. Jean-François Lévesque propose les deux granulométries en différents formats sur le site des Jardins de l'Écoumène. C'était le biochar, l'or noir du jardin. Un texte de Marjolaine David, paru le 7 mars 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lina Marche et Claire Dorion à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.